C'est le journal avec Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, la gauche a reconquis le fief républicain de Marseille grâce à l'écologiste Michèle Rubirola. Elle veut en finir avec le clientélisme. On en parle avec le grand entretien à 8h20, la bouillabaisse politique marseillaise. Nous recevons son premier adjoint, Benoît Payan, à l'issue donc d'une bataille électorale digne des meilleures séries télé. Et puis à 7h50, on reviendra sur l'épidémie de Covid. Elle flambe aux États-Unis, l'Espagne reconfine. Décryptage en direct de Genève avec l'épidémiologiste de l'OMS, Didier Pité. Dans le reste de l'actualité, Laurence ?
Et justement, la Catalogne reconfine les alentours de la ville de Lérida où les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la première sortie du nouveau locataire de Matignon. Jean Castex était hier en visite dans l'Essonne, dans une entreprise. Et puis, Lewis Hamilton en première ligne et pour le départ du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche et dans la lutte contre le racisme avec Mercedes à ses côtés.
France Inter.
Michèle Rubirola, maire de Marseille, après 6 heures de suspense, malgré leur défaite de 13 000 voix, les Républicains, par le jeu des secteurs et des alliances, avaient une chance de l'emporter, mais l'ancienne socialiste Sam Mégali a fait basculer le vote au second tour en joignant ses voix à celles du printemps marseillais et pour finalement obtenir un poste de deuxième adjointe. Alors, après 25 ans de règne absolu de Jean-Claude Gaudin, Michèle Rubirola, qui a fait campagne sur la fin du clientélisme, entend gouverner la ville autrement, Olivier Martoc.
À différence de son prédécesseur, Michèle Rubirola n'est pas un tribun. Elle a lu son premier discours, n'est pas sorti d'un texte où les mots étaient comptés, choisis, précis.
À tous ceux qui ne sont pas allés voter par dégoût, désespoir ou désaveu de la classe politique, à ceux qui ne croient pas dans leurs élus et doutent de leur institution, je veux leur dire qu'on agira toujours dans l'intérêt général, au service de tous. Le clanisme, le népotisme, le clientélisme ont vécu.
La lutte contre l'affairisme et le clientélisme, c'est ce qu'attendent les associations et les militants qui, depuis 2 ans, travaillent sur le projet du printemps marseillais.
Ça fait une semaine que j'en dors presque plus. J'ai très très peur qu'on revienne au vieux système qu'on connaît depuis 25 ans à Marseille. Donc là, c'est un vrai espoir, un vrai changement pour cette ville qui pourrit sur place à cause du clientélisme. Donc c'est un vrai espoir, quoi.
Par défaut, j'ai voté Rubirola. Bon, en fait, ici, il y a tellement de magouilles depuis 25 ans. Après, quand on a les sous ici... Ah ouais, la vie, elle est magnifique. Mais quand on est des ouvriers, eh ben on voit que la merde. Ça nous donne un peu d'espoir, mais il faut vraiment qu'ils fassent leur preuve.
Marseille a un endettement de près de 2 milliards, l'équivalent de son budget annuel. Les marges de manœuvre seront très faibles. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Régler à court terme le dossier des retraites, Jean Castex lève le voile dans le JDD sur sa feuille de route. Il veut d'entrée de jeu s'attaquer au dossier sensible, relocalisation, formation, et puis former bien sûr un gouvernement au plus vite. Jean Castex et Emmanuel Macron se seraient mis d'accord hier sur une liste de noms, sur une nouvelle architecture gouvernementale qui doit refléter les priorités de cette nouvelle étape du quinquennat. Des priorités que le nouveau Premier ministre a voulu dessiner lors de son premier déplacement officiel. C'était hier dans une entreprise industriels de la région parisienne, X-Fab, près de Corbeil-Essonne. Reportage d'Élodie Forêt.
Pour ce tout premier déplacement, Jean Castex voulait des symboles afin d'illustrer le plan de relance qu'il compte mettre en œuvre. C'est donc dans une entreprise impactée par la crise qu'il s'est rendu, une entreprise exposée d'autant plus aujourd'hui à la concurrence internationale et que le nouveau Premier ministre souhaite accompagner. Jean Castex, qui a aussi voulu faire passer un message aux élus locaux conviés, cette nouvelle étape du quinquennat, promet-il, ne se fera pas sans eux.
La stratégie au niveau national, la recherche de solutions opérationnelles au plan local en partenariat avec les élus locaux.
Jean Castex, lui-même maire de Prades, n'a donc pas perdu de temps pour jouer à fond la carte des territoires, louant au passage l'ouverture des élus locaux capables de travailler avec des gens de tous bords.
C'est encore plus nécessaire alors que nous traversons une crise économique et sociale qui...
L'union, indispensable pour sortir de la crise, un message laissant présager l'arrivée de différentes sensibilités au gouvernement. Jean Castex, qui a en tout cas convaincu les marcheurs présents à cette visite, comme la députée de l'Essonne, Marie Guévenoux.
Il a adressé des messages assez forts et c'est une personnalité qui a l'air de savoir où il veut aller.
Les parlementaires de La République En Marche que Jean Castex rencontrera lundi soir avant son discours de politique générale prévu en milieu de semaine.
Élodie Forêt, elle avait 26 ans, elle était gendarme. Elle a été tuée à la suite d'un refus d'obtempérer pendant un contrôle routier à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne, à une vingtaine de kilomètres d'Agen. Le conducteur a été rapidement interpellé après les faits. Il a été placé en garde à vue. On en reparle dans le journal de 7h30. Un accident mortel hier après-midi dans un parc d'attractions de Saint-Paul dans l'Oise. Une femme de 32 ans est tombée de l'attraction de type roller coaster. Le manège avait pourtant été contrôlé il y a moins d'un an, François Sauvestre.
Imprudence humaine ou défaillance matérielle, rien ne permet à ce stade de préciser l'origine de cet accident survenu un peu avant 14h, indique le parquet de Beauvais. Parquet qui a ordonné une expertise technique qui va débuter dès aujourd'hui. Des experts qui vont tenter de comprendre donc les circonstances de la chute de cette femme de 32 ans qui se trouvait dans ce manège baptisé le Formule 1, une attraction de type montagne russe. Sur place, les pompiers ont tenté de la réanimer en vain. C'est la seule victime, personne d'autre n'a été blessé, mais un soutien psychologique est en place pour les proches de la victime qui ont assisté au drame. Seule la zone du manège Le Formule 1 est fermée pour les besoins de l'enquête menée par la brigade de recherche de la gendarmerie d'Amiens. La préfecture de l'Oise ne s'oppose pas à ce que le reste du parc Saint-Paul soit accessible au public.
François Sauvestre, et c'est sur ces mêmes montagnes russes d'ailleurs exploitées à l'époque en 2009 par un autre opérateur qu'une femme avait trouvé la mort après avoir été éjectée du manège.
C'est la suite de votre journal, Laurence Thomas, et quand les pompiers épinglent la gestion de la crise du coronavirus.
Dans un rapport interne que s'est procuré France Info, les soldats du feu regrettent de ne pas avoir été assez pris en compte dans la gestion de la pandémie. Ils dénoncent aussi des lourdeurs administratives ou encore que la crise n'ait été confiée qu'au ministère de la Santé au détriment d'une gestion interministérielle. Particulièrement attaquées également les agences régionales de santé et les opérations d'évacuation des victimes entre régions. Les images étaient impressionnantes, on s'en souvient, à bord des TGV. Opération qualifiée d'esbrouf par les pompiers, alors qu'il y avait souvent de la place dans les cliniques privées à côté, mais seulement elles n'ont pas été bien intégrées dans le dispositif. À l'étranger, la Catalogne a dû faire marche arrière après quelques jours de valse hésitation. Fermera, fermera pas, le président de la communauté autonome a finalement tranché et renvoyé au confinement les habitants de la région de Lérida, à 150 km à l'ouest de Barcelone. Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse, de quoi inquiéter les commerçants au moment où l'économie locale reprenait quelques couleurs. Mathieu de Taillac.
C'est une mauvaise nouvelle. C'est la réaction de la chambre de commerce de Lérida au reconfinement du canton qui entoure la ville, une zone rurale qui est l'un des vergers de l'Espagne. Le président de la fédération d'hôtellerie et de restauration, interrogé par l'agence de presse EFE, s'est dit également inquiet. Les restaurants, les cafés commençaient à retrouver une activité à peu près normale. Ils ne sont pas tenus de fermer, mais le gouvernement régional catalan interdit les réunions de plus de 10 personnes et recommande aux habitants de ne sortir de chez eux que pour couvrir leurs besoins essentiels. Et personne ne peut entrer dans le canton, si ce n'est pour raisons professionnelles ou de force majeure. La zone est loin d'être la plus touristique de la région, la mer est à 100 km, la frontière française à 200, elle n'est aucunement touchée par la mesure qui, en quelque sorte, met le canton sous cloche pour une durée indéterminée. Le problème pour la Catalogne et pour l'Espagne est surtout une question d'image, un reconfinement 2 semaines après la fin de l'état d'urgence. Les autorités préfèrent jouer la carte de la prudence. Madrid, Mathieu de Taillac.
Et alors que la Catalogne se reconfine, eh bien le sport et la Formule 1 se déconfinent ce dimanche, Laurence.
Avec le Grand Prix d'Autriche, le premier d'une saison 2020 qui aurait dû commencer le 15 mars dernier en Australie. Alors 3 Français sont sur la ligne de départ, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Romain Grosjean. Et un Britannique à la chasse au record, Lewis Hamilton. Le Britannique vise un 7e titre de champion du monde cette année. Mais en attendant, on a beaucoup vu le pilote sur le terrain politique ces dernières semaines, Jean-Pierre Blimaud.
Lewis Hamilton n'a pas attendu le Grand Prix d'Autriche pour dénoncer le racisme. Il vient de créer une commission pour favoriser la diversité dans le sport auto. Après la mort de George Floyd aux États-Unis, il a également publié un message sur les réseaux sociaux où il critique le silence de ses homologues. Lewis Hamilton sur le site officiel de la compétition.
Il faut déjà connaître le passé. C'est une question d'éducation. Il y a encore tant d'oppression pour les Noirs.
Né de l'union d'un père noir et d'une mère blanche, Lewis Hamilton affirme qu'il a été harcelé à l'école et qu'il a souffert du racisme jusqu'au début de sa carrière automobile. C'est pourquoi il est descendu manifester pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent.
Bien sûr que toutes les vies comptent, celles des noirs comme celles des blancs, mais le problème de cette histoire, c'est que les vies des noirs semblent effectivement moins compter. Je suis descendu manifester dans les rues de Londres. Il y avait des gens de toutes les couleurs, des noirs, des blancs, des gens qui étaient entre les deux. Cela nous a apporté beaucoup de réconfort et de chaleur.
Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas seront en noir toute la saison pour soutenir le mouvement et le pilote britannique.
Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant que Mercedes me soutienne dans cette démarche d'égalité et d'intégration. C'est énorme.
Les pilotes ont également envisagé de mettre un genou à terre avant la course.
Jean-Pierre Blimaud, et on retrouve Amélie Perrier.
Merci Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Et Jean-Michel Golinski, c'est à peu près le même refrain qu'hier, hein ?
Ah oui, le changement principal, ce sont les éclaircies qui vont s'installer progressivement par la côte de la Manche. Sinon, on garde à peu près les mêmes cartes d'hier, avec à nouveau une France coupée en deux au niveau d'un axe Poitou-Charentes, bassin parisien, Champagne. Avec, pour la partie nord, beaucoup de gris, parfois quelques gouttes, un vent d'ouest désagréable, des côtes normandes au nord-Pas-de-Calais, et des températures de 18 à 20 degrés près de la Manche. Il fera 22 à Rennes et Nantes, et 23 à 25 vers Tours, Reims et Paris. Plus bas, le soleil sera plus généreux, même très vaillant en arrivant sur les régions méridionales et les températures estivales, avec 27 prévus cet après-midi à Bourges et Nancy, 28 à Mulhouse et Dijon, 30 degrés dans le sud-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, 31 à 34 du golfe du Lion à la Provence et sur la Corse, et même 36 degrés prévus entre Nîmes et Marseille.